international, ça.
Québec, pas pantoute.
Ben voyons, vous êtes certain?
Come on! Ah là, je vous reconnais!
Gravel dans le retour, ça gagne à être connu.
Okay. Il y aura de la pluie demain, mais pour le reste, c'est du soleil mur à mur. Ça regarde bien, entre autres, pour le match Boulevard des Capitales jeudi soir au Stade Canac. Ramassez vos billets Capital avec un S de Québec.com. Aujourd'hui, présentement, c'est 25 degrés. C'est full soleil, minimum de 14 ce soir et cette nuit. Demain, 60 % les chances d'averse. Il y a des orages prévus en après-midi. Et après ça, c'est le soleil qui revient jeudi, vendredi et samedi sur les routes Audrey.
Si vous êtes sur la capitale direction ouest, ça vient d'apparaître à la hauteur d'Henri Bourassa, la voie du centre qui est bloquée, une panne de ce côté-là. Je regarde la carte, ça commence à s'installer pas pire. Capitale direction est, c'est entre Henri IV et Robert Bourassa. Ouest, il y a d'ailleurs un ralentissement hauteur Robert Bourassa qui est plus inhabituel dans le coin de Laurentienne, sinon. Et entre Seigneurial et Henri Bourassa, toujours sur la capitale ouest. Sinon, Henri IV Sud, ça se passe entre Wilfrid Amélie, pont Duplessis Sud, Charret et les ponts. Un peu plus haut dans le coin de Shannon, il y a un léger ralentissement dans les deux directions, route de la Bravoure, devant la base militaire. Pour ce qui est de la rive sud, c'est la 20 direction ouest, entre la route du président Kennedy et Taniata. Et il y a toujours ce problème-là, là, si vous êtes sur Guillaume Couture, entre Chemin des Îles et Taniata. D'ailleurs, je viens de zoomer là, sur la 20 ouest, directement à la hauteur de Chemin des Îles, semble y avoir un accident, ce qui n'est vraiment pas le ralentissement. Autre chose, 88-971-1021 texto.
Si vous nous écoutiez ce matin, vous savez qu'il y avait une annonce conjointe de Boulevard 102.1 et de Paul Saint-Pierre-Plamondon pour confirmer que les deux nouvelles voies de Boulevard 102.1, Nicolas Lacroix et Catherine Saint-Laurent, ne seraient pas en onde tant et aussi longtemps que Donald Trump allait être président.
Non, t'as mêlé les affaires.
Je pense que j'ai mêlé une coupe d'affaires.
Ça a été un gros 7h30, Denis. Hein?
Oui, ben là...
Le café est arrivé à 7h35.
On suivait beaucoup de choses en même temps. Ça se peut que je me sois mélangé un petit peu.
Les vieux monsieur. Hein?
Pour revenir à la base, Paul Saint-Pierre-Plamondon avait convoqué les médias et a fait son annonce qui était, oui, quand même assez longue et fastidieuse, mais en gros, ce qu'il disait, c'est tant et aussi longtemps que le président Donald Trump allait être en place, il n'y aurait pas de référendum du côté du Québec. Et parlant de Donald Trump, ben quelle surprise! C'était un autre bluff et vraisemblablement, les nouveaux tarifs n'entrerait pas en vigueur demain, c'est
en
ça?
En fait, Trump entrevoit un sursis tarifaire. Mais là, ça reste toujours à confirmer, puis on va aller aux nouvelles. Mais tu sais, on savait qu'il était censé y avoir un appel entre Mark Carney et Donald Trump, vraisemblablement dans la... On disait entre lundi et mercredi. Est-ce que ça a rapport? Est-ce que le poids du côté des chambres de commerce américaines qui demandaient à Trump, « Hey, fais pas ça, c'est pas une bonne idée. » Est-ce que ça finit par être entendu ou...
C'est juste un autre jouet,
j'en ai aucune espèce d'idée, mais on va tenter de valider quelques informations.
Parmi les gens qui ne semblent pas tomber en bas de leur chaise, on s'en va rejoindre notre analyste politique, Antonine Iaccarini. Salut, Anto!
Allô!
on commence malheureusement à être habitué au manège.
Ben, écoute, moi, c'était ma prédiction, là, puis je dis pas ça pour me vanter, mais on connaît un peu la façon de faire de Donald Trump.
Ouais.
Il nous fait un peu ce qu'il a fait avec l'Iran, là. C'est comme, les négociations se poursuivent, donc je vais attendre là, avant de vous bombarder, là. On est là-dedans aussi avec nos négociations avec les États-Unis. Puis, de toute façon, même si on en était arrivé à une entente avant demain, là, qu'est-ce qui aurait empêché Donald Trump de ne pas la respecter puis de recommencer? C'est sa façon de faire. Tout ce qu'il fait, c'est créer de l'incertitude, nous surprendre, nous envoyer des bombes au sens figuré, bien sûr, pour par la suite réussir à aller chercher des concessions et des gains du côté du Canada, ce qui fonctionne très bien. On en a donné plusieurs d'ailleurs, sans jamais avoir eu rien en échange. Donc, même s'il y avait une entente cette semaine, je pense pas qu'il s'empêcherait de continuer son petit manège. Là.
Mais vu qu'on est là-dessus, commençons avec ça, Antonine. Est-ce que tu as l'impression que c'est Mark Carney qui fait pas la job? Parce qu'on a vu dans les sondages que de plus en plus voudraient qu'on tienne la ligne dure face aux États-Unis. Ou on fait juste, malheureusement, prendre conscience de notre réel pouvoir dans l'équation? Puis est-ce qu'on peut vraiment tirer notre épingle du jeu quand le monstre de l'autre côté de la frontière décide juste de faire du caprice puis d'en faire à sa tête?
Ouais, écoute, hier, quand il y a eu la rencontre entre Dominique Leblanc et les officiels de Washington, la rencontre a duré plus longtemps que prévu. Quand les acteurs sont sortis de la rencontre, il n'y avait pas de commentaires à faire. Ça, d'habitude, c'est des bons signes. Hein? Dans une négociation okay. normale, on se dirait, OK, on est proche d'un accord, personne ne veut rien faire dérailler, ça dure plus longtemps, ça veut dire qu'on est rendu, on se dit, ah, ben, on va continuer, on est presque rendu à s'entendre. L'affaire, c'est qu'on n'est pas dans une négociation qui est normale, puis je pense que les gens de notre côté de la frontière le savent très, très bien. Par contre, depuis le début, Mark Carney a réussi un peu à apparaître comme le moins pire des chefs pour négocier dans cette situation-là, mais les gens savaient bien que c'était une situation qui était normale et les attentes n'étaient pas là qu'il règle tout du jour au lendemain. Mais pendant la campagne électorale, il nous a promis quand même certaines choses, notamment qu'il allait tenir la ligne dure. Les messages des libéraux, là, ça ressemblait beaucoup plus à ceux de Doug Ford. On va se tenir debout, elbows up, on va répliquer. Et finalement, on sent que ben ça fonctionne pas comme ça dans la vraie vie, puis face à un adversaire comme Donald Trump. Mmh. Et je dois dire que moi, j'ai senti vraiment le vent tourner quand on a décidé de reculer sur la contribution pour les plateformes numériques. Il y avait eu l'été passé la taxe Netflix.
On est exactement à la même place, Antonine. Quand on est revenu de vacances, je me suis dit, si tu veux voir le réel pouvoir du Canada face aux États-Unis, regarde comment on s'est couché dans le dossier Netflix, alors qu'habituellement, ces réglementations-là, pour avoir maille à partir avec le CRTC ici, d'une façon locale, oui. c'est des gens qui sont pas très ouverts à la négociation sur la réglementation, mais ça a de l'air...
C'est très à sens unique.
Ouais, ça a de l'air pas mal plus facile de se coucher à terre en avant de Netflix que, mettons, d'essayer d'entendre des stations de radio qui se meurent à la grandeur du Canada.
Oui, puis on sent que le CRTC s'est essayé, voulait faire appliquer la réglementation, puis c'est pas une organisation qui donne des conseils au gouvernement, hein, c'est un tribunal, là, le CRTC. Là. Donc, d'habitude, ils disent quelque chose, puis on est obligé de l'appliquer.
Exact.
Mais là, dans le cadre des négociations, disons que le timing n'était pas très bon, mais l'impression qui est restée, je pense, dans la tête des gens, c'est que c'est Donald Trump qui décide de nos politiques.
Ouais.
Qu'on soit d'accord ou non avec une taxe numérique, avec une contribution numérique, ben c'est qui décide de l'agenda politique de notre côté de la frontière en ce moment? C'est M. Trump. Puis là, on commence à sentir un mécontentement qui monte face à Mark Carney. Pas de ne pas avoir tout réglé tout d'un coup, mais de donner des concessions en échange de rien du tout. Puis là, on commence à avoir des inquiétudes, puisque la contribution numérique, ça n'existait pas avant. Donc, tu sais, c'est pas une énorme perte. Ça donne une impression qu'on décide pas chez nous. Mm-hmm. Mais par exemple, quand on va commencer à tomber dans la gestion de l'offre, dans des éléments plus culturels qui peuvent vraiment avoir un attachement là, du côté du Québec notamment, et dans nos secteurs économiques aussi qui sont cruciaux, et là, ça commence à être une autre game pour Mark Carney. Puis il est très chanceux parce que son adversaire principal, Pierre Poilievre, apparaît pas comme étant meilleur que Mark Carney pour négocier face à un Trump. Mais on voit, là, il y a un sondage Abacus qui est sorti dans les derniers jours, j'ai trouvé particulièrement intéressant, puis qui démontre à quel point Mark Carney est un peu dans la chenoute. Là. Ça va encore correctement, là, mais tu vois le danger qui le guette. C'est que les gens sont très divisés sur la stratégie que le gouvernement devrait avoir face à Trump. Quand on demande aux gens est-ce qu'on devrait répondre avec des contre-tarifs, 36% des Canadiens qui disent oui, on devrait avoir des contre-tarifs par rapport aux États-Unis, même s'il y a des risques d'escalade, même si ça nous coûte plus cher, alors qu'il y a 30% qui disent non, on continue de négocier sans contre-tarifs, puis tu as un 18% qui dit donnez donc des concessions aux États-Unis. Bon, je ne connais pas ces gens-là, je juge un peu leur réponse, mais tu vois à quel point c'est divisé.
Ouais.
Donc, peu importe la direction que Mark Carney va prendre, il va y avoir des mécontents du côté de la frontière. Puis, peu importe les options qu'on choisit, il va y avoir des conséquences économiques.
Et il y a l'urgence de régler dans ces chiffres-là aussi, parce que les gens qui disent donner des concessions aux États-Unis, c'est des gens qui considèrent qu'on n'a pas de pouvoir de négociation, mais qu'on doit régler ça au plus vite d'une façon ou d'une autre.
Tu parles du sondage Abacus, il y en a un léger qui est paru dans la dernière heure et demie, qui est encore plus récent. Puis tu vois qu'au Québec, on est la province où les gens sont les plus exigeants par rapport à ça, en disant que Ottawa est trop passif. Puis tu vois qu'il y a des appuis à des mesures de rétorsion commerciale, comme par exemple des taxes sur l'électricité, sur les exportations de gaz et de pétrole, ou encore même d'empêcher les entreprises américaines de pouvoir bider sur des appels d'offres des marchés publics canadiens.
On est émotif, je trouve, quand même, au Québec, quand on regarde un peu ça, parce que de mettre des taxes supplémentaires, commencer à jouer avec l'énergie là, avec les Américains, les amis, là, C'est très dangereux, là. C'est pas, c'est quelque chose qui est considéré comme étant hyper stratégique par Washington. Déjà qu'ils sont très insultés qu'on ait enlevé l'alcool sur nos tablettes, c'est juste pour vous dire, là. Si vous commencez à faire comme Doug Ford prônait, c'est-à-dire on leur coupe l'énergie si jamais ça fonctionne
ça
pas,
va être beau, hein?
Vous allez voir que le ton va changer, là. Il n'y en aura pas de négociation. Mais en même temps, on sent quand même qu'il y a une colère de ne pas être capable de se tenir debout. Puis
oui.
Là, c'est là que Mark Carney a une petite fenêtre dans laquelle passer. Il s'est fait poser la question, il était à Saint-Jean hier avec Christine Fréchette, puis le premier ministre de Terre-Neuve. Il s'est fait poser la question, est-ce que vous êtes capable de tenir tête aux États-Unis? Il y a eu un lourd silence, on entendait très bien le bruit des mouettes sur le bord de l'océan Atlantique, mais tu vois qu'il y a vraiment, il est sur le fil du rasoir, puis il a dit quelque chose du genre, je peux pas négocier sur la place publique, mais j'ai des options. J'étais pas très convaincant, je vous dirais.
Antonine, évidemment, je veux savoir ce que tu penses de l'annonce qui a été faite par le chef du Parti québécois ce matin, Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais avant, je veux savoir si, pendant une microseconde ou deux, tu as pensé que Paul Saint-Pierre Plamondon allait annoncer son recul sur son engagement de référendum pendant un premier mandat. Parce que de la façon que ça a sorti hier, en fin d'après-midi, on avait l'impression qu'il allait annoncer sa retraite, son départ, tu sais, de la façon qu'il avait fait ça sur ses réseaux sociaux.
Est-ce qu'il a fait un Catherine Fournier, à votre avis?
Ça ressemblait peut-être à ça un peu, là.
Ah, la mairesse de Longueuil qui avait convoqué les médias sur son avenir politique,
ben
ça
oui.
avait écrit énormément de spéculations. Là, moi, mon téléphone avait explosé, tout le monde voulait savoir qu'est-ce qu'elle allait annoncer, puis elle annonçait finalement qu'elle se représentait aux élections municipales l'automne dernier. Non, pour répondre à ta question, Nani, je n'ai jamais pensé que PSPP allait reculer parce que ce serait épouvantable. Le 30 % qu'ils ont présentement le PQ dans les sondages, ben c'est pas mal le 30 % des gens qui disent qu'ils voteraient oui s'il y avait un référendum.
Ouais.
Il a basé tout son brand politique sur le fait qu'il était transparent, qu'il disait les choses telles qu'elles sont, qu'il était quelqu'un en qui les gens pouvaient avoir confiance. S'il commençait à reculer après 5 ans à dire qu'il allait avoir un référendum dans un premier mandat à quelques jours du déclenchement des élections, ce serait catastrophique pour lui. En même temps, je pense que ces candidats ont fait du terrain cet été. Ils ont sûrement fait du focus group aussi. Ils écoutent les chroniqueurs, les animateurs de radio. Puis ils se rendent bien compte que, effectivement, l'argument de dire est-ce que c'est le temps en ce moment de faire un référendum alors qu'on est dans une crise sans précédent avec les États-Unis puis qu'on essaie de faire des partenariats avec les autres provinces, je pense qu'ils ont quand même entendu le message. Puis PSPP, on essaye beaucoup de lui accoler cette étiquette de personne qui est rigide, qui n'écoute pas, qui est têtue, qui lui a raison. Je pense pas que ça vient de nulle part là, puis que c'est un grand complot injustifié. Mais il a quand même réussi à nous prouver cette semaine avec ce pas de côté, c'est pas un recul, mais c'est un pas de côté qui nous dit qu'on va attendre le départ de Trump avant de faire un référendum, ce qui nous amène un petit peu plus loin que la mi-mandat d'un mandat majoritaire.
Mais là, on n'est pas
prouvé
loin.
Qu'il était capable d'être flexible.
Ouais, mais on n'est pas loin d'un verbiage qu'on a déjà entendu au Parti québécois concernant des conditions gagnantes aussi. Là.
Ah, les conditions gagnantes, l'étapisme.
Oui.
C'est toutes des époques que j'ai connues et que j'ai tellement entendues. Effectivement, c'était le risque. Hein, probablement que quand ils se sont fait une petite réunion là, dans le bureau, là, puis on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, ils se sont dit, oh, on va essayer de pousser juste qu'on fait des précisions, que ça a toujours été ça, qu'on l'avait déjà dit. Mais évidemment que, moi, j'ai vu ça beaucoup dans les commentaires sur les médias sociaux, que c'était le retour des conditions gagnantes. Mais en même temps, je veux dire, il ne peut pas être complètement déconnecté puis faire semblant que l'anxiété que les gens vivent en ce moment, elle n'existe pas. Mmh. Les gens sont en train de se demander pour qui ils vont voter encore. Hein. Beaucoup d'indécis, beaucoup de gens qui disent que leur choix n'est pas définitif. Tu as une Christine Fréchette qui arrive, qui essaie de redonner un souffle nouveau à la CAQ en disant « Vous pouvez compter sur la CAQ pour défendre la langue française, la laïcité, pour limiter l'immigration, pour et vous évitez un référendum. » Donc, évidemment que PSPP n'a pas le choix, quelque part, de se réajuster face à cette situation-là.
Les cyniques vont dire, oui, mais c'est de la pure stratégie. Ça fait un an et demi qu'on est dans cette situation-là. Ça fait un an et demi que la question lui est posée.
Ouais.
Il n'y a rien de nouveau. Outre des résultats de sondage qui continuent à dire qu'il y a 50 % des gens qui sont indécis puis qu'il y a très peu de gens qui sont pour un référendum et que le PQ risque, s'y passe, d'être un gouvernement minoritaire, il n'y a rien de neuf sous le soleil pour ajouter ça ce matin.
Je pense qu'ils ont fini par comprendre que dire aux gens arrêtez de stresser, ça ne déstresse personne. Okay? Dans la vie, quand quelqu'un est anxieux,
stresse pas,
tu n'as pas raison, stresse pas, calme-toi, ça n'a jamais fonctionné. Donc, qu'est-ce qui fonctionne, c'est de dire, un, votre anxiété, elle est valide, elle existe, je l'acknowledge, je la reconnais. Maintenant que ça c'est dit, voici ce qu'on va faire. Puis qu'est-ce qui a tendance à baisser l'anxiété? C'est de la prévisibilité, de la transparence, de la cohérence. Donc, c'est ce qu'il a décidé de faire avec cette annonce-là. Puis, dans les faits, il l'avait déjà dit. En février dernier, après l'élection partielle dans Chicoutimi, il a prononcé un discours dans lequel il a dit « on sera pas fous, là ». OK, on le sait, Trump sera pas là pour toujours. On va être responsable, on va faire les choses correctement. Tu sais, dans le fond, c'est juste que c'est pas tout le monde qui l'avait entendu, ce message-là. Moi, j'ai trouvé sa stratégie comme plutôt habile aussi. Parce que hier soir, il nous a fait une petite publication sur les médias sociaux là, qui nous teasait. On voyait qu'il n'avait plus trop envie de parler de Churchill Falls parce que visiblement, c'était quelque chose qui était positif pour Christine Fréchette. Moi, je crois que c'était un bon coup pour elle. Il a voulu changer de sujet. C'est le roi de la diversion, hein, PSPP. Là, vous vous rappelez, à la fin de la session parlementaire, il avait fait un lien entre le crime organisé et le Parti libéral. Pourquoi vous pensez qu'il avait fait ça? C'est parce que ça, il tentait pas de parler du bilan de la session. Il n'y avait pas énormément de choses à mettre de l'avant.
L'annonce, pour toi, c'est une réaction à l'entente de Churchill Falls pour amener vraiment le narratif ailleurs.
Je pense qu'il fallait qu'il le fasse de toute façon, mais que le timing qui a été choisi de faire ça immédiatement la même journée que la conférence de presse, c'était une stratégie de communication.
Bien, j'allais dire, moi, je trouve ça même intelligent parce que, tu vois, je le disais un peu plus tôt dans l'émission avec Don, mais moi, je fais partie des cœurs à prendre dans la mesure où je ne suis pas souverainiste dans l'âme, mais en même temps, demain matin, tu me prouves qu'on est bien tout seul puis séparé du Canada. Bien, si ça fait bien du sens que tu me présentes, je veux dire, je ne suis pas celle qui va... je suis très prête à embarquer dans le bateau.
Tu ne seras pas dans l'autobus du non, là.
Non, c'est
ça.
Tu es
sur le trottoir, là, t'attends le bus.
Moi, je suis dans l'arrêt puis je fais du pouce, là. Je suis très ouverte, puis tu vois, une sortie comme ce matin, j'ai trouvé ça super intéressant parce que je me suis dit, ah, ben mon Dieu, ça me donne le temps, si j'ai envie de voter pour lui, peu importe la raison, de me dire qu'il va pouvoir me prouver le pourquoi du pourquoi, puis sa façon de faire, puis c'est quoi son plan de match. Puis ça va être plus facile pour moi de prendre une décision éclairée si réellement il nous pitche dans un référendum dès que Donald Trump n'est plus là, tu sais.
Moi, je suis d'accord avec ton analyse et j'ajouterais que je regarde les commentaires sur les plateformes de médias sociaux et ceux qui disent « c'est un recul, c'est épouvantable, c'est des adversaires, c'est pas des souverainistes. » C'est pas les, t'sais, présentement, les gens qui voteraient oui, ils se disent pas « mon Dieu, mais quelle trahison! » C'est pas du tout. Les gens trouvent que ça a bien de l'allure. Puis si vous regardez ce qui s'est passé en 1995 puis en 1980, ça prend du temps quand même préparer un référendum. Je pense que c'est correct. Au niveau de la stratégie de com', de faire une déclaration par écrit ce matin à 7h30 qui donne l'occasion à tout le monde de reprendre le message intégralement sans que ce soit dans une conférence de presse qui va dans tous les sens parce qu'on pose des questions sur Churchill Falls, etc. ou qu'est-ce qui va arriver si c'est un gouvernement minoritaire, par exemple, parce que ça, on n'a toujours pas la réponse. Bien, ça a permis à son message de vraiment se cristalliser. Puis après ça, il se rendait disponible pour des entrevues, ce qui fait qu'il n'a pas l'air d'être poltron ou de se cacher. Donc, j'ai trouvé que c'était une séquence de com bien organisée. Puis je pense que ça va avoir été positif pour le PQ.
Parlant de séquence de com bien organisée, qu'est-ce que tu penses du livre noir sur les vieux partis qui vient d'être lancé par le Parti conservateur du Québec? As-tu le temps de checker ça un peu? C'est un document de 17 pages qui nous fait un genre de bilan sinistre de tout ce qui a été fait de tout croche par les partis qui se sont succédés au pouvoir dans les dernières décennies.
Moi, là, j'aime ça, ce genre d'initiative-là, où on fait le travail, on collige l'information. Bon, est-ce qu'on collige l'information qui fait notre affaire? Bien sûr, mais ça fait partie de la communication politique. Moi, j'aime bien. Je l'ai feuilleté, je ne l'ai pas lu au complet. J'ai vu certaines choses. Ça m'a rappelé certains souvenirs aussi, hein, parce qu'ils remontent jusqu'au PQ. Puis là, la cimenterie mécaniste, moi, j'ai des chocs post-traumatiques. Là, t'sais. Moi, j'ai été attaché de presse. Moi, j'ai défendu ça, moi,
ouais,
la cimenterie mécaniste.
T'es PTSD de ça encore.
Ouais, je me rappelle très bien ces journées-là. Fait que ça m'a rappelé des beaux souvenirs. C'est comme un livre d'histoire. Là, c'est comme un scrapbook avec certaines époques de mon passé. Moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est stratégique parce que aussi, tu sais, dans les médias, on est dans le vieux, il y a beaucoup d'affaires qui se passent. Puis là, on donne un truc tout fâché, rassemblé. Ils ont comme fait une partie du travail. Moi, je trouve que c'est le genre d'outil qui est intéressant. Ça veut pas dire qu'on va acheter tout ce qu'il dit tel quel, là. mais c'est la perspective qu'ils ont puis qu'ils poussent, qui ont colligé dans un document. Au niveau visuel, là, on est à la radio, là, on ne peut pas vous le montrer, chers amis. Je n'ai pas trouvé que... Je pense qu'il aurait pu repasser un petit peu plus de temps là, sur
la mise en
le
page.
Rendu visuel. je trouve ça ordinaire au niveau de la forme, disons.
Moi, il y a deux bémols parce qu'on lisait ça en diagonale tantôt pendant la pause. Mon premier bémol, c'est que ce serait peut-être le fun que ça vienne avec un autre livre où on aurait, je ne sais pas, le livre blanc ou le livre vert.
Le livre conservateur. Avec les solutions
le
à l'intérieur.
D'or des conservateurs où on dit ben voici, là, on vous a fait le constat des problèmes, voici maintenant nos solutions, notre plan de match.
Voici comment on ne tombera pas dans les mêmes pièges que les autres partis, incluant la CAQ qui a déjà fait la job du Parti conservateur il y a une dizaine d'années de ça. Là.
Parce que ça, c'est mon autre bémol, Antonine, c'est que les électeurs se sont déjà fait servir ça il y a 8 ans par la CAQ, hein, l'héritage des vieux partis. Mm-hmm. Puis 8 ans plus tard, la CAQ fait partie des vedettes du livre noir des vieux partis.
Et voilà!
Il y a des gens qui sont restés marqués. Il n'y a pas juste toi qui es PTSD là, de ce qui s'est passé dans les dernières années. Fait que je ne sais pas si ce discours-là, quelqu'un qui a voté pour la CAQ il y a 8 ans puis qui leur a fait confiance, est-ce que ça va faire en sorte que tu vas voter conservateur cette fois-là avec le même raisonnement? Je ne sais pas.
Il y a quand même une partie de l'électorat qui est influencée plus par la colère puis l'écœurant,
c'est sûr.
Dans la vie, là. Puis les partis de droite ont toujours eu davantage le talent pour exploiter ça, la colère des gens. C'est une roue qui tourne. Puis là, je sais que je vais avoir l'air un peu... C'est pas du cynisme, c'est la politologue en moi. C'est les cycles politiques. Ça revient tout le temps. Tout le temps un peu la même pièce de théâtre. Il y a des personnages, mais c'est pas toujours les mêmes acteurs qui jouent les personnages. Mm-hmm. Là, il y a toujours le personnage du parti qui a jamais gouverné et qui, lui, peut critiquer tous les autres puis qu'on peut pas critiquer parce qu'ils ont jamais rien fait encore, mais qui ont des solutions un peu magiques à des problèmes qui sont extrêmement compliqués. Bien, c'est l'avantage d'être le plus petit et d'être le parti qui n'a jamais gouverné. Donc, le Parti conservateur en profite amplement. Par contre, c'est sûr que la réponse, le livre bleu, vert, blanc, donc vous parliez rose, mauve, comme vous voulez, ça va être la plateforme électorale du Parti conservateur. Puis ça, on le sait que souvent, c'est la faiblesse de ces plus petits partis-là qui n'ont jamais gouverné. C'est qu'ils peuvent dire « moi, j'ai pas de passif », mais en même temps, ils n'ont pas énormément de moyens. Puis des fois, comme on dit, c'est des solutions un peu faciles. Moi, quand j'ai vu qu'on allait couper 47 milliards, sur 5 ans dans la fonction publique, dans l'État québécois, me dit sérieusement, si vous croyez à ça, j'envie votre optimisme.
Et voilà, votre candeur.
Je vais le dire comme ça. Votre candeur. Ça n'arrivera pas. C'est pas possible. Là, je suis obligée de reprendre les mots. Je pense que c'est Christine Fréchette, puis Ruba Gazal, puis tous les autres qui ont dit que ça serait un démantèlement de l'État. Ça serait un démantèlement de l'État. C'est d'une grande complexité. Il y a eu un rapport de la VG cette semaine sur l'état des finances publiques, là, le rapport préélectoral, qui disait que pour juste atteindre l'équilibre budgétaire, on n'est pas rendu à couper dans les milliards, on est juste pour... il fallait contrôler les dépenses, la croissance des dépenses à 1%. Juste faire ça, là, vous allez voir défiler à l'Assemblée nationale des groupes de tout acabit dire « ça n'a pas de bon sens, vous faites mal au service, vous... » Ça, c'est juste pour contrôler la croissance des dépenses. Ouais. Donc, 47 milliards, là. En tout cas, j'attends la plateforme et j'attends avec impatience le cadre financier du Parti conservateur. Je suis une des 6 personnes qui aiment ça, lire les cadres financiers des partis politiques. Mais celui-là m'interpelle particulièrement.
Antonine, il y a un autre départ de quelqu'un qui se présentait. C'est dans la circonscription de Taschereau. Ouais. C'est Jeanne Robin qui représentait le Parti québécois qui a annoncé qu'elle ne se présente pas finalement. Ouais, elle se désiste.
Pour des raisons personnelles, c'est la deuxième fois qu'elle tentait de se faire élire dans Taschereau. La dernière fois, elle avait eu 22 % des suffrages. C'est Étienne Grandmonde, Québec solidaire, qui l'avait remporté à 39 %.
Ça a été le comté d'Agnès Maltais pendant 75 ans,
Arrête! Si elle t'entend dire ça, c'est sûr qu'elle t'arrache la tête d'une gravelle. C'est certain que ça s'en pointe.
Si tu veux le revoir.
C'est une façon de dire que ça a été son château fort pendant très longtemps. Là. C'est une belle image que je faisais.
Dans sa publication pour annoncer qu'elle se retirait, elle a dit que c'était pour des raisons personnelles, que ça n'avait rien à voir avec les orientations du Parti québécois, qu'elle allait voter PQ, a remercié l'équipe, le Parti québécois qui l'a remercié d'ailleurs pour son implication.
Ça fait plusieurs, Antonine, qui...
Change d'idée en route.
Ils mettent leur tête dans l'étang, puis finalement, ils décident qu'ils ont des raisons personnelles, puis qu'ils s'en vont. Puis je veux pas nécessairement mettre tout le monde dans le même panier, puis il y a peut-être des enjeux qu'on connaît pas. Mais j'observe une certaine tendance, moi, des gens qui plongent en politique, toutes couleurs confondues, puis après 3 semaines, ils se disent « Oh, finalement, je recule. Faut-tu s'inquiéter de ça? Faut-tu signaler ça? »
Bien, moi, je pense qu'on doit s'en inquiéter, oui. C'est très difficile pour les partis de recruter des candidats. Des fois, j'ai l'impression que c'est tellement dur de convaincre certaines personnes que le parti va se dépêcher de rendre ça public pour éviter que le candidat recule. Ça, on voit ça des fois. C'est genre, ah ouais, on l'annonce parce que j'ai peur que la personne soit chambranlante. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des gens qui, malgré tout, même si ça a été annoncé, vont préférer sortir. C'est une grosse décision de se lancer en politique. Là, les vraies affaires. Là.
Mais je reconnais la stratégie parce qu'on a fait exactement la même chose avec Nicolas Lacroix et Catherine Saint-Laurent. les contrats sont pas signés encore, là, tu sais.
Annoncez-le avec Charles Didier. Oui, et puis je pense que tu as raison de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Ce qu'on a vu, puis notamment dans la région de Québec, il y a René Verret du PLQ qui s'est retiré dans Louis Hébert. On évoque des raisons personnelles, le manque d'énergie, alors que ben, en coulisses, on entend d'autres rumeurs comme telles. Tu sais, les raisons personnelles, puis passer plus de temps avec nos familles, c'est des classiques en politique, mais des fois, ça couvre autre chose. Mm-hmm. Il y a eu aussi les candidats qui ont eu des propos spéciaux. Là. Je pense à Michel Savard d'Angoin, mais ça, c'est une autre paire de manches. Moi, ce que j'entends, c'est que Jeanne Robin avait effectivement des raisons personnelles. C'est pas du tout une chicane comme telle. Et elle voulait vraiment se présenter, elle. Okay. Donc, il semble que ça fait des mois qu'elle a dit au PQ, je veux me présenter. Donc, il a l'air de vraiment se passer quelque chose qui est en dehors de son contrôle.
Elle a dit que c'était pas sa santé.
Honnêtement, c'est ça, c'est jamais. Non, ben c'est ça. Puis là, je n'en ai aucune idée de qu'est-ce que c'est. Mais j'ai pas de signaux que ce serait un faux prétexte comme tel. Mais ce que j'entends aussi en coulisses, c'est qu'il y a des gens qui disent qu'ils vont se présenter, puis c'est pas encore annoncé, et qui choquent. On a pas mal de chocage. Donc, les partis mettent de la pression pour avoir des candidatures, veulent des gens. Puis, pour déjà avoir été approché à quelques reprises par des partis politiques, je peux vous dire que c'est vrai que les partis nous mettent de la pression. Puis, je sais que les femmes sont particulièrement difficiles à recruter.
OK.
Elles doutent beaucoup, sont pas sûres qu'ils vont être bonnes, gna gna gna, alors que les gars sont comme « Salut, moi je vais être premier ministre, là, je suis vraiment bon. » C'est plus compliqué avec les femmes.
Bon,
okay? Bon, messieurs, bon. Je vous aime, mais vous avez tellement une belle confiance en vous, c'est vraiment inspirant. J'espère toujours que vous allez en faire un parfum, je vais m'en asperger de cette confiance infinie. Maintenant, il y a ça. Quand un parti politique se met sous ton cas pour que tu te présentes, puis que là, il y a 3-4 personnes qui t'appellent, puis que là, on te sort plein d'arguments, ben ça peut faire en sorte que tu finis par dire oui dans la discussion, mais après ça, quand tu rentres chez vous, puis que tu regardes tes enfants, puis que tu regardes ton setup de vie, puis tu te dis « Attends une minute, là, est-ce que c'est vraiment ça que je veux comme vie? » Donc, j'ai entendu plusieurs histoires dans des circonscriptions de gens qui avaient dit oui, puis qui finalement ont changé d'idée. Et ça, c'est un problème du PQ. J'ai entendu beaucoup de gens qui voulaient vraiment y aller, mais qui ont eu un processus d'investiture. Ça, c'est quand il y a un vote des membres de la circonscription pour choisir le candidat, qui se sont très mal passés. Puis je pense notamment à la candidate Anne-Marie Laroche qui devait se présenter dans Vanier et qui a fait une publication après pour dire « Je me retire de l'investiture, c'est du n'importe quoi. Il y a des candidats qui se rajoutent à la dernière minute. J'ai l'impression qu'on me met des bâtons dans les roues. » On a entendu plusieurs histoires comme ça. Fait que c'est plate. Quand t'as une candidate qui veut y aller, une femme qui veut y aller, puis qu'on lui met des bâtons dans les roues, puis après ça, on dit « On a de la misère à recruter les femmes », c'est particulier, ça.
Effectivement. Hey, Anto, merci beaucoup.
Hey, à bientôt.
À bientôt, Antonine Iaccarini, qui sera avec nous autres à toutes les semaines dans le retour, en plus de reprendre son poste au sein du caucus. Elle a déjà commencé, d'ailleurs, cette semaine, mm-hmm. parce que je sais qu'on annonce que la rentrée, c'est la semaine prochaine, mais on est à peu près toutes de retour tranquillement.
La semaine prochaine, ce serait le déclenchement de l'élection.
En plus.
Dans 9 jours, si on se tient à Mark Carney.
On fait tout ça à peu près dans les mêmes dates, mais tout ça pour vous dire que y a un autre désistement, puis celui-là, c'est dans ta ça va être une des nombreuses luttes chaudes dans la région de Québec. Hey, avez-vous déjà choqué quelque chose, vous autres? Parce qu'on parle de gens qui choquent, tu sais, pour se lancer
en
politique.
Un engagement ou un souper?
Ben,
souper
pas un souper, là. Tu sais, c'est pas monter sur le tremplin puis finalement redescendre par l'échelle. Ça, je l'ai fait, j'ai choqué souvent. Mais un vrai de vrai choke. Vous dites oui. Puis finalement, vous arrivez à l'hôtel ou vous arrivez dans l'église, puis vous faites comme Carlos, puis vous vous mettez à courir puis à vous sauver. Là.
Une fois.
C'était pourquoi?
J'étais sur l'organisation du 10 ans de retrouvailles de secondaire.
OK.
Fait que j'avais commencé l'organisation, j'avais créé un comité, j'avais...
C'est toi qui l'avais créé?
Oui, tout ça était là. J'étais vraiment à la tête de...
l'instigatrice.
Ouais. Ben, en fait, il y a quelqu'un qui avait lâché le commentaire qu'on serait rendu là, puis j'ai toujours été celle qui organisait. Fait que...
Quelle surprise!
J'organisais. Mm-hmm. Puis c'est comme tombé dans une drôle de période de vie où j'avais quitté pendant quelques semaines, d'ailleurs, ici à Boulevard pour aller respirer un peu. Puis je me suis comme rendue à l'évidence, peut-être 3 semaines avant l'événement, que...
Ça ferait pas.
Ça ferait vraiment pas, puis je serais complètement innocente. C'était à Montréal en plus, puis moi, le secondaire a pas été top. Fait que je me disais, pourquoi je vais là? Pourquoi je m'impose ça? À qui? Qu'est-ce que j'essaie de prouver à qui là-dedans?
Ton réflexe naturel, c'était de te lancer, alors que ton réflexe rationnel, c'est juste... Hey, c'est pas une bonne idée.
Ça marche pas en tout, fait que j'ai choqué, puis je me suis sentie coupable.
C'est weird, hein, parce que Anto parlait des gars qui avaient une belle confiance à la limite de l'arrogance. Je me reconnais tellement pas là-dedans. Moi, j'ai choqué souvent par insécurité ou manque de confiance pour des petits commitments, là. Tu sais, pas des choses nécessairement importantes. Tu sais, il y avait le show de Big Muff ici au deuxième étage. J'étais supposé de faire une toune. J'ai choqué à 2 semaines d'avis. Mais ça m'est arrivé de choquer pour vrai, de vrai, de vrai, une fois. Puis c'était pour aller faire de la radio à Montréal. J'avais dit oui. Pendant un an et demi, je continuais de dire oui. Puis à peut-être un mois du lancement de la station de radio, j'ai appelé mon boss puis j'ai dit « Hey, finalement, c'est non. »
Qu'est-ce qui s'est passé?
le côté rationnel a pris le dessus.
Plus clairement que ça, on a starté à Nordique Nation à Québec puis on a commencé à avoir beaucoup de fun.
Tu t'es mis à triper plus sur ta ville?
Oui, je tripais sur la ville, attention. Mais j'avais comme un bout d'ego ou un bout d'orgueil qui voulait savoir qu'est-ce que je vaux ailleurs. Puis là, on lançait, à l'époque, c'était Radio X Montréal. Puis j'étais supposé d'être le morning man de Radio X Montréal. Puis j'aimais ma stratégie de dire, moi, je suis venu pour apprendre. Puis les premiers shows, on fait rien qu'ouvrir les lignes, puis vous me dites tout ce qui marche pas. Puis moi, je vais ramasser ça tranquillement, puis on va regarder, tu sais, parce que si on essaye de faire Radio X à Montréal, ça marchera pas, on n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes enjeux. Fait que moi, je l'avais dit à mon boss, j'ai dit, regarde, moi, les premiers jours, puis j'haïs ça, là, je vais dire au monde d'appeler, puis c'est eux autres qui vont me dire c'est quoi les problèmes ici.
Apprenez-moi Montréal,
je suis venu pour apprendre.
Hey, avec beaucoup de respect, je te verrais tellement pas faire de la radio à Montréal. Pour moi, t'es trop un gars d'ici.
Avec du recul,
maintenant.
Avec du recul, je sais pas pourquoi je sais pas comment j'ai réussi à me craquer et à me convaincre.
Ben, tu l'as dit, la valorisation, t'avais juste besoin qu'on te l'offre, finalement.
Ben, j'avais pas de blonde, je m'enlignais pas pour avoir des enfants, puis je me disais, faut que je l'essaye une fois au chalet, t'sais, faut que je me donne une swing. Puis finalement, j'ai choqué. Puis une des raisons pour lesquelles j'ai choqué, c'est que à Québec, ça a commencé à bien aller au niveau de la job. Tu sais, je fais une image avec la Nordique Nation puis tout ça, mais l'émission du matin qu'on avait entre les mains avait comme commencé à avoir énormément de traction.
Puis j'ai commencé à prendre aussi.
Ouais, hein? C'est ça. Fait que je me suis dit, dans ce contexte-là, je pense que j'aime ça ici, finalement, puis que je veux en profiter.
Comme si, mettons, le plan que tu t'étais fait proposer, tu l'avais accepté parce que pour toi, c'est peut-être une fuite aussi. Là.
Ouais.
Genre, hey, je vais me sortir d'une position que je n'ai pas tant de fun que ça. Moi, essayer autre chose, puis... Ce sera mon excuse.
Fallait que j'essaye autre chose à un moment donné. Je l'ai faite il y a 5 ans, finalement.
Étiez-vous ensemble à ce moment-là?
Oui.
Dans le...
Oui,
Véro, t'aurais-tu suivi?
Zéro pin de bord.
Non.
Moi, ça avait été très clair dès le départ. Là.
Non, je partais tout seul.
C'est ça, t'as choqué. Tout ça fait du sens.
Oui, je me souviens encore de mon boss au téléphone. Il a comme eu un blanc, tu sais. J'ai dit, finalement, j'y vais pas.
Il a dit taille.
Il dit, tu sais que tu me mets dans la merde en tabarnak. J'ai dit, je le sais, je m'excuse. S'il y en a qui ont déjà vécu ce genre de chocage-là...
Du vrai chocage-là, pas sûr, parce qu'il y en a qui vont faire miroiter, qui vont accepter quelque chose dans le seul et unique but de connaître leur valeur ou encore de faire monter les enchères. Pour moi, c'est les affaires les plus cheap.
Ah non, moi, je négociais pas, là. C'était j'y vais ou j'y vais pas, tu sais.
Il y en a qui se servent de ça, puis qu'après ça, ils... choque, mais il choque pas parce qu'il manque de confiance. Il avait jamais eu l'intention d'accepter.
Ouais, non, c'est pas
et
pareil.
Pour eux, c'était juste pour construire quelque chose.
Mais c'est tout le temps la même image que j'ai, moi. Quand j'abandonne quelque chose, je me vois encore sur le bout du tremplin de la piscine. C'est la place où j'ai choqué le plus dans ma vie. le nombre de fois, parce qu'à tous les dimanches, on allait à la piscine, à Chicoutimi-Nord, le nombre de fois que je me crinquais pour aller sauter sur le tremplin dans le trop creux, puis le nombre de fois que je refaisais le way back de la honte. Tu sais, les gens qui sont en file se tassent pour rire de toi puis te regarder descendre par l'échelle.
Ça me fait rire, parce que moi, toutes les fois que tu parles de ça, moi, le fameux tremplin, je le regardais d'en bas, puis je me disais à un moment donné, je l'ai monté, puis je l'ai pas sauté, je l'ai plongé.
Oh!
J'étais assez fière de moi.
Mm. Et dis de même, ça fait, sans l'image est belle.
Ouais. Moi, la fois que j'ai fini par le faire, je vais avoir 16-17 ans, j'ai fait un flat.
D'où ces douleurs de dos?
4h15, vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour.
Gravel